Et merci de nous avoir laissé ce temps. Merci beaucoup, Brigitte.
Merci Isabelle, merci de le dire. Donc, merci à chacun et on engage le cours numéro 2, si vous voulez bien. Vous avez reçu normalement deux documents. Le premier document, c'est en fait le plan du cours numéro 1, un tout petit peu revu, un peu mis à jour, mais surtout avec dans la dernière page, et j'espère que vous avez eu le temps de le lire, mais si vous n'avez pas eu le temps, on va le prendre maintenant. Dans la dernière page, la troisième page de ce document, ce que j'ai appelé une synthèse, le mot vaut ce qu'il vaut, où j'ai essayé en une quinzaine de lignes, dizaine de lignes, de rassembler ce que j'ai dit, ce qu'on a échangé, en essayant de tenir aussi, d'entendre aussi les questions qui ont pu être posées par un tel ou un tel. Donc, tout le monde a eu ces documents, n'est-ce pas? Soit vous les avez en papier, soit vous les avez sur votre écran, enfin bon, vous les avez d'une manière ou d'une autre. Peut-être est-il utile que je partage quand même à l'écran ce bref texte. Vous le voyez? Oui? Quelqu'un me dit oui? Ou ça va?
Oui.
Oui, alors voilà, c'est bien, merci. Merci. Donc, je vais lire cette synthèse, on va pas trop épiloguer là-dessus, mais je vais la lire juste pour qu'on se remette dans l'esprit, la dynamique dans laquelle on est. Donc, le cours d'introduction de la semaine passée a proposé une première étape, une première réflexion sur l'idée de révélation. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Finalement, il va y avoir trois grosses idées, si je puis dire, trois idées principales. Première idée, donc, première idée, on est là. La révélation est un acte dont Dieu est l'auteur. Donc, un acte dont l'auteur est Dieu. Je passe la parenthèse. Hein. Dieu propose à tous, je pense que ces mots-là sont importants, sans cesse, à nouveau. Donc, on est dans une réitération en quelque sorte. Donc, Dieu propose sans cesse à tous de le rencontrer. Et cela se fait parce qu'il propose donc cette démarche en s'approchant lui-même. Et je vous rappelle les mots sur lesquels j'ai attiré votre attention la semaine passée, en s'approchant lui-même par le Christ dans l'esprit, n'est-ce pas? Voilà. Donc, première idée, c'est celle-là. L'acteur, si je puis dire, l'acteur est Dieu et c'est lui qui sans cesse propose. Deuxième idée, il n'y a donc pas de choses à gagner. Hein, il n'y a pas quelque chose à gagner pour chacun d'entre nous. Mais parce que Dieu est premier, sorte de formule synthétique de ce qui précède, ce qu'il est à faire, c'est à accueillir l'offre de la rencontre. Et il y a cette belle formule, alors en français, donc il faudrait peut-être aller vérifier en italien, mais cette belle formule, il s'agit de se laisser rencontrer. Donc cette sorte d'ouverture qui permet que la rencontre ait lieu tout simplement parce qu'on laisse les choses se faire. Donc se laisser rencontrer. Mais toujours dans cette même idée qui est en fait, alors qu'en est-il de l'humain dans cette volonté et gratuité de la part de Dieu? Il s'agit de se laisser rencontrer, pourtant ce n'est pas, cet accueil n'est pas passivité. Donc n'est pas qui se passe et peu importe. Non, pas du tout. Au contraire, il s'agit, ça encore c'est une citation, comme vous en souvenez peut-être, de prendre la décision de la rencontre. Et de nombreux exemples, et peut-être nous-mêmes sommes-nous parfois dans cet état d'esprit, de nombreux exemples montrent que cette décision peut ne pas être prise. On avait évoqué l'épisode du jeune homme riche. Et cette décision est signe de la liberté, pardon, de la liberté personnelle, qui se fait donc avec discernement. Et elle est en même temps ce dont Dieu rend capable chacun. Vous vous souvenez cette formule très particulière, enfin très, très intéressante, disons plutôt, dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Donc, Dieu premier, mais il y a une décision de la rencontre, décision à se laisser rencontrer, deuxième idée. Troisième idée, c'est pourquoi la décision de la rencontre et la rencontre elle-même ne peuvent se passer ailleurs que dans le réel, dans le monde réel actuel. Alors, le monde réel actuel, ça a été très rapidement évoqué, c'était à la fin de la séance, mais c'est un monde qui est complexe, bien sûr, souvent pécheur, je crois que ça, on peut vraiment le dire suite à notre précédente conversation. Mais la complexité, c'est qu'il y a croisement entre tradition, modernité et postmodernité. Donc, c'est une vraie complexité. Mais concrètement, parce que là, on pourrait rester à un niveau un peu d'idées, parce que concrètement, ce lieu de la rencontre, en quelque sorte, hein, qui est le monde réel, Encore plus concrètement, ça se concrétise, voilà, c'est ce que j'ai écrit ici, dans des manières de vivre. Et alors, si vous permettez, la conversation qu'on vient d'avoir entre nous à l'instant et du fait des circonstances, des situations, on voit bien qu'il y a tellement de manières de vivre qui ne conviennent pas, qui sont inadmissibles. Hein. Donc, des manières de vivre, y compris les manières de vivre des communautés. Je vous rappelle le « vous », le « cœur » de Corinthiens. Donc, au fond, trois idées. Dieu premier, se laisser rencontrer sans que ce soit passivité, mais que ce soit au contraire liberté, discernement. Et nulle part ailleurs, si je puis dire, nulle part ailleurs que dans le monde réel. Et cela se voit dans des manières de vivre. Voilà, c'est à peu près la synthèse, si je puis dire, de ce que j'ai voulu dire la semaine passée, du parcours que j'ai fait la semaine passée. Et dans une réflexion un peu concrète, je vous rappelle les sources que j'ai utilisées. J'ai utilisé très centralement quelques versets de la deuxième épître aux Corinthiens, et puis des références bibliques aussi de l'Ancien que du Nouveau Testament, un texte du pape, donc, et un texte d'un théologien. Donc, vous voyez, des sources aussi, c'est intéressant toujours de réfléchir à comment on fait quand on fait un peu de théologie, quand on réfléchit en théologie. On peut retenir de cette première leçon la diversité des sources. Sources scripturaires, sources magistérielles, c'est le pape, et d'autres textes du magistère, bien sûr, et la théologie. Il y a d'autres sources encore, hein, mais en tous les cas, c'était ce croisement-là que j'ai opéré la semaine passée. Donc voilà, ça vous remet les choses un peu en esprit, dans la mémoire, j'espère. Voilà, donc on rentre concrètement dans la deuxième étape. Cours numéro 2, alors peut-être avec le temps qu'on vient de consacrer et qui était fort utile, je pense, je ne sais pas si je vais aller au bout de la séance, mais on prendra ça la semaine suivante, ce n'est pas un problème. Quelle est l'étape dans laquelle je vous invite à entrer maintenant? Ce qui est acquis, donc la synthèse vient de nous le dire assez précisément, je pense, c'est que c'est Dieu qui vient à la rencontre et que c'est lui qui rend capable chacun de désirer et de travailler à cette rencontre. Ce qui veut dire, si on a à peu près acquis cet élément-là, ça veut dire ça a une conséquence extrêmement forte et importante, qui est que c'est très différent des autres religions, globalement. Cette idée que c'est Dieu qui vient à la rencontre, qui vient susciter, qui permet de se laisser rencontrer, c'est vraiment opposé, on pourrait pratiquement dire, aux idées religieuses habituelles, alors peut-être pas aux autres religions de manière trop générale, mais aux idées religieuses habituelles, je le disais déjà la semaine passée, où il s'agit souvent de faire des choses pour gagner la relation à Dieu. Là, le faire des choses n'est pas nul, mais il est quand même extrêmement dépendant de ce que Dieu fait. Donc, on est presque, enfin, dans une première approche, comme on peut s'autoriser à l'instant, on est presque à l'opposé de l'idée religieuse commune de la rencontre du divin. Vous voyez, l'idée religieuse commune de la rencontre du divin, qui appartient à la constitution de l'être humain, hein, c'est qu'il y a des efforts à faire. Il faut faire, et même la tradition chrétienne le dit aussi comme ça, il faut faire des sacrifices. Hein, ça va compter pour rencontrer Dieu. Vous voyez, c'est du vocabulaire qui est dans nos oreilles, hein, ce que je dis là, certainement. Eh bien non, le fait chrétien nous dit l'inverse, nous dit que Dieu vient, et dit sans cesse et à nouveau, et toujours et à tous, je veux te rencontrer. C'est le monde à l'envers quand même, ça. Ou en tous les cas, c'est le monde à l'envers par rapport à l'idée classique que l'on a de Dieu. À l'idée courante, en tous les cas, que l'on a de Dieu. Donc, une fois cela vraiment posé, acquis, un peu compris, enfin un peu perçu en tous les cas, la question qui est la question de cette séance et de la séance prochaine, je verrai comment elles s'articuleront, c'est au fond, dans cette rencontre, dans cette volonté, cette liberté, cette gratuité de la rencontre voulue par Dieu, quels sont donc les moyens, on va dire, les médiums, hein, les véhicules, on pourrait dire dans d'autres vocabulaires, dans un autre type de vocabulaire, quels sont donc les moyens de cette rencontre? Qu'est-ce qui fait qu'il est possible de rencontrer Dieu pour l'être humain? Vous voyez, c'est un peu ça la question. Comment est-ce possible? Est-ce que ce n'est pas juste un délire, en fait, hein? C'est ça aussi. Sur quoi il faut s'interroger. Alors, j'ai repris la formule dans la synthèse, je dites la semaine passée, et puis dites à l'école de la deuxième aux Corinthiens, je vous rappelle cette grande expression du moyen par le Christ dans l'esprit. Voilà. J'ai dit que c'était comme une définition de la Trinité, hein, la semaine passée, mais on a là un par et un dans qui sont des moyens, hein, par le Christ et dans l'esprit. Mais on voit bien aussi que, aussi magnifique en fait que soit cette formule, elle ne suffit pas. On a envie de dire, bon, et alors quoi? Et alors la suite, c'est quoi? Bon, donc on voit bien qu'il faut, poursuivre la réflexion et poursuivre, je dirais, dans la dimension concrète, hein, pour que ce soit réel pour nous, nous qui sommes sur la terre, des êtres de chair, etc. On va parler, et toute la tradition parle, de ce qu'on appelle, et là il faut ouvrir les guillemets carrément, des lieux théologiques. Il y a des lieux théologiques, lieux, alors vraiment, ça montre le côté concret, hein, des lieux théologiques qui sont les lieux de la rencontre. Et mon objectif était de les aborder la semaine prochaine, hein, donc de faire un peu une liste, parce que c'est sous forme de liste. En plus, on parle des 10 lieux théologiques. Hein, voilà, donc il y a 10 lieux théologiques, et puis il y a eu après, au XXe siècle, quelqu'un qui a dit, mais il y a aussi des lieux théologiques en acte. Donc vous voyez, vous mémorisez ça déjà pour la semaine prochaine, 10 lieux théologiques et lieux théologiques en acte. Bon, mais avant de rentrer dans cette dimension tellement, enfin très relativement objective, objectivante en tous les cas, je voudrais aujourd'hui, et c'est ça le sujet, et ça pourrait être presque le titre de ce cours, je voudrais aujourd'hui, au-delà du par et dans, par le Christ et dans l'Esprit, je voudrais formuler la proposition suivante, à savoir que quand on regarde tout ce qu'on peut appeler le grand geste biblique, vétérotestamentaire, néo-testamentaire, au fond, on peut dire que, enfin, on peut oser dire d'ailleurs, c'est presque de cet ordre-là, que Dieu se rencontre, vient à la rencontre de l'humain, dans le temps et dans la chair. Et voilà mon sujet d'aujourd'hui. Dieu dans le temps et Dieu dans la chair. Vous entendez combien c'est différent et c'est opposé à l'idée classique que l'on a courante du divin. Justement, le divin, c'est typiquement celui qui n'est pas dans le temps et celui qui n'est pas dans la chair. Hein? Puisque le divin, c'est celui qui est, on dit éternel hein, souvent, voilà. Donc c'est pas dans le temps. Il faudra s'expliquer là-dessus parce que c'est pas si simple. Mais c'est aussi celui qui est esprit. Dieu est esprit. On est d'accord là-dessus. Donc, il n'est typiquement pas dans la chair. Vous voyez ? Donc, on est quand on entend un peu la révélation biblique, hein, on peut employer ce mot-là, qui permet d'arriver à cette simple formule, dans le temps et dans la chair, on est vraiment dans quelque chose de très particulier, on peut dire, de très spécifique au christianisme. Et qui va... produire quelque chose qui heurte notre compréhension habituelle de Dieu. Parce que le temps et la chair, alors pour le coup, on connaît, nous sommes dans le temps et nous sommes dans la chair, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Mais le temps et la chair, c'est notre lieu, le lieu de l'humanité, le lieu du cosmos, le lieu de la réalité créée d'ailleurs. Mais c'est d'abord une réalité finie. Le temps, ça passe. La première caractéristique du temps, c'est que ça file, si ce n'est que quand on est dans un cours et que c'est déjà une heure de passé, n'est-ce pas? Donc le temps, ça file. La chair, c'est matériel. Donc on voit bien que le fini, le matériel, l'éphémère aussi, parce que ça change sans arrêt, n'est-ce pas, le temps, la chair. Ce sont des qualificatifs, en quelque sorte, du temps et de la chair qui sont comme opposés à l'idée qu'on a de Dieu, parce que Dieu, il est infini. Il est immatériel, il est immuable, il est esprit. Donc voilà. Et puis des qualificatifs, on peut en dire encore plein d'autres, n'est-ce pas? Mais donc on est dans une. Si on affirme, enfin, si la révélation biblique nous permet d'affirmer un Dieu dans le temps et dans la chair, on est dans une manière de qualifier Dieu différente de toutes les manières habituelles de qualifier Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont invalidées. Parce que de fait, Dieu est bien immuable, Dieu est bien infini, Dieu est bien immatériel. On ne va pas dire le contraire. Hein. Mais il n'empêche qu'en venant dans le temps et dans la chair, ça trouble, hein, ouais, ça déplace notre compréhension de l'infini, de l'immutabilité, de l'immatérialité, enfin, etc. Donc, quel est donc ce Dieu qui se révèle ainsi? Bien sûr que c'est ça la question, hein, toujours. Donc, dire que Dieu se révèle dans le temps et dans la chair, c'est vraiment définir quelque chose, si on peut autoriser cela, bien sûr, mais définir quelque chose de Dieu qui en fait, qui permet d'aborder une spécificité de la définition du Dieu chrétien. Alors, comme je suis dans la tradition vétérotestamentaire et néotestamentaire, on va même pouvoir dire, pour une part, judéo-chrétien. Donc, en fait, confesser Dieu dans le temps et dans la chair, c'est confesser Dieu qui vient sur le terrain humain. C'est ça, hein, que Dieu soit dans la veuille la rencontre, et soit l'auteur, l'acteur de la rencontre, ce que j'appelle Dieu premier, vous voyez, c'est au fond arriver à dire que, enfin pointer que c'est sur le terrain le plus humain, du fini, de l'éphémère, du matériel, que Dieu vient. Donc c'est vraiment une révélation, parce que si on ne l'entend pas dire, on ne peut pas l'imaginer en quelque sorte, vu qu'on a une idée, que je ne redis pas, de Dieu. Donc je vous propose deux points dans notre déroulé d'aujourd'hui. Vous avez eu le plan, hein, également de cette séance. Et ben voilà, j'étais à l'introduction, l'introduction est faite. Premièrement, Dieu dans le temps. Et deuxièmement, c'est dans la page suivante, Dieu dans la chair. On verra comment on arrive à avancer. Alors, sans trop simplifier, donc accepter ce que je vais dire en étant tout de suite conscient que c'est une simplification. On pourrait dire que la révélation de Dieu dans le temps est une formule vétérotestamentaire, et que, évidemment, ça c'est plus évident, que la révélation que Dieu vient dans la chair, est dans la chair, est au cœur, hein, de la révélation néo-testamentaire, donc Ancien Testament, Nouveau Testament. Bien entendu que le Dieu dans le temps, il se poursuit, hein, c'est pas quelque chose qui s'arrêterait parce qu'on passerait de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Donc c'est pas aussi caricatural de dire c'est l'Ancien, c'est le Nouveau. Bon, mais il y a quand même quelque chose de cette manière-là, et qui permet d'ailleurs de pointer que l'Alliance nouvelle est aussi une révélation nouvelle. Dieu dans la chair n'est pas dans l'Ancien Testament, hein, pas de cette manière-là, en tous les cas, pas avec l'extrême de l'incarnation. Alors donc, comme vous le voyez d'ailleurs, les références bibliques que j'ai voulu retenir, alors j'en ai retenu une ou deux, hein, donc on pourrait en mettre un millier, hein, naturellement, donc... Une année suffirait, un semestre ne suffirait pas. Donc j'en ai retenu deux dans ce premier temps, donc Dieu dans le temps, viennent, comme vous le voyez, de l'Ancien Testament. C'est vraiment des textes majeurs, hein, de l'Ancien Testament, donc je pense que vous les connaissez, mais il peut être intéressant de les relire un peu et de les commenter un peu aussi. Donc je réfléchis en trois étapes dans ce premier moment, Dieu dans le temps. Première étape, c'est au fond l'idée qui a un lien très étonnant, là encore, quand on a l'idée classique de Dieu, l'idée courante de Dieu, un lien très étonnant entre Dieu et l'histoire. Le Dieu judéo-chrétien intervient dans l'histoire, et intervient dans l'histoire en se faisant reconnaître dans l'histoire. Pas une intervention dans l'histoire où on tombe du ciel, la foudre, le tonnerre, les éclairs, enfin ça on a des images, hein, quand même, que ce soit de Zeus ou de tel ou tel film, c'est pas ça, hein. C'est intervenir dans la trame même de l'histoire, pas de manière tonitruante, mais intervenir dans la trame même de l'histoire. Et ça, c'est vraiment un élément vétérotestamentaire majeur. Alors, beaucoup, beaucoup de références, on l'a dit, je l'ai dit, j'en retiens une, qui est très majeur parmi les majeurs peut-être, qui est ce qu'on trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Vous avez le texte sous les yeux, on ne va peut-être pas tout lire pour essayer de ne pas être trop décalé par rapport au timing prévu, mais on a probablement en tête, j'imagine, ce récit de ce qu'on appelle le buisson ardent. Hein, Moïse est un berger, il garde les moutons, il a un beau-père qui est prêtre de Madian, c'est le premier verset, hein, que j'ai lu. C'est-à-dire qu'il est un païen, hein, prêtre de Madian, c'est un païen. Donc, il a épousé une femme, c'est son beau-père, hein, il a épousé une femme qui est une païenne, mais qui va être très importante dans son histoire néanmoins. Donc, c'est un berger, il conduit son troupeau, il se perd un peu d'ailleurs, hein, en fait, il vient jusqu'à la montagne de Dieu, et il voit ce fameux buisson qui brûle sans se consumer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est étonnant. Et il accepte, regardez au verset 3, enfin, il accepte, c'est plus que ça, il décide. Je vais faire un détour. Vous remarquez le verset 3 là, de la troisième ligne? Est-ce que vous avez le texte ou est-ce qu'il faut que je l'affiche? Excusez-moi, peut-être qu'il faut que je l'affiche. Ça serait peut-être mieux, non? Excusez-moi, j'ai fait tout à fait l'opération. Je partage l'écran. Clac, clac, c'est où? C'est là? Voilà, voilà, on y est. Donc vous avez le texte et puis peut-être on peut le voir en même temps. Donc au verset 3, je vais faire un détour. Voilà la décision, hein, parce qu'il pourrait ne pas faire le détour, donc il ne verrait rien. Donc la décision est là. Liberté aussi, parce qu'il pourrait ne pas faire le détour. Donc je vais faire un détour pour comprendre ce que c'est que cette chose bizarre quand même. Hein. Ça brûle et ça ne se consume pas. Et ce détour est tel que Dieu l'appelle du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Et là encore, liberté du prophète. Réponse du prophète, fin du verset 4. Me voici. Ça, c'est la phrase du prophète dans toute la Bible, n'est-ce pas? Et donc, rencontre avec Dieu, la terre que tu foules est une terre sainte, ôte tes sandales, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais alors, là où on rentre dans ce dont je veux parler, à savoir un Dieu qui intervient dans l'histoire, c'est à partir du verset 6 que c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un, on a fait cette procédure la semaine passée, c'était pas mal, donc est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que quelqu'un peut lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 10? 6 à 10, 4-5 versets. Allez-y, je mets à l'écran, voilà, c'est là. Allons-y, quelqu'un.
Moi, je veux bien.
Ben voilà, c'est bien, allez-y.
Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. » Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le Périsite, le Hivite et le Jébuséen. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël.
Merci de cette première étape de lecture. Ce qui est au cœur de ces versets, c'est ce qui est surligné en vert, si vous permettez, c'est ce que Dieu fait. Il voit, il entend, il connaît, il descend, et il va faire monter vers un beau pays. C'est ça l'intervention dans l'histoire. C'est, je disais tout à l'heure, tonitruant, le feu, l'éclair, le tonnerre. Pas du tout. C'est voir de la misère, c'est entendre des cris, c'est prendre conscience des souffrances, et c'est descendre pour délivrer. Et donc faire monter. Descendre pour délivrer et faire monter. Vous voyez le mouvement qui s'opère déjà. Donc, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi. J'ai vu, verset 9, on reprend, l'oppression. Donc, Dieu qui intervient dans l'histoire, c'est Dieu qui voit le malheur, la souffrance et la misère. Alors, de son peuple en Égypte, mais peut-être on peut dire des hommes. Donc, l'intervention, c'est d'abord ça, hein, vous voyez. Et celui qui va réaliser, c'est ce qui est surligné en bleu, celui qui va réaliser, c'est le prophète. Donc, c'est un homme. Alors, un homme choisi, un homme qui a accepté de faire un détour, ce qui est loin d'être rien. Mais c'est le prophète qui, donc, vas-y, je t'envoie, tu feras sortir, voilà. Fais le travail, quoi, en quelque sorte. C'est le prophète. Donc, un Dieu qui intervient dans l'histoire, c'est enfin, la compréhension vétérotestamentaire de l'ancienne alliance du Dieu qui intervient dans l'histoire, c'est d'abord Dieu qui voit la souffrance et qui la comprend et qui la reconnaît pour ce qu'elle est et qui dit absolument pas, chose qu'on peut dire parfois, oh, ben prends ton mal en patience, ça ira mieux après, et puis comme ça tu gagnes ton paradis. N'est-ce pas? C'est pas du tout ça qui est là. C'est cette souffrance est insupportable. Elle n'est pas acceptable. Bon. Mais il y a bien quelque chose que l'être humain, le prophète en l'occurrence, ici doit faire. Donc si jamais il ne le fait pas, c'est pas parce que Dieu aura vu la souffrance qu'il se passera quelque chose. Mais ce qui est également intéressant, enfin, si on poursuit l'analyse, c'est ce qui est surligné en jaune. En jaune, vous voyez au verset 6, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et si j'avance un peu dans le texte, c'est la partie qu'on n'a pas lue, mais on va y aller. On retrouve le Dieu de vos pères, ce n'est pas le Dieu de ton père, hein, c'est le Dieu de vos pères, là, au verset 13. Et puis surtout, on retrouve, en bonne inclusion, vous savez, hein, texte biblique, souvent, on cherche les inclusions. Donc, en bonne inclusion, verset 15, « Tu parleras au fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur. » Alors, le Seigneur, c'est le nom même de Dieu, en quelque sorte. Mais le Dieu, voilà sa définition. C'est le Dieu de vos pères, et donc on retrouve la trilogie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, des hommes dont on sait déjà qu'ils ont eu des histoires, si on peut dire, avec Dieu. Donc, vous voyez, à l'intérieur, si on pense l'inclusion, hein, à l'intérieur de la connaissance envers, hein, de la misère, de la reconnaissance de la misère, des cris, et donc de la nécessité d'agir, descendre pour délivrer, à l'intérieur de cela, qui est l'histoire des hommes, on a une définition de Dieu, mais qui n'est pas une définition, bah, Dieu est l'être éternel, au-dessus de tout le réel, ou pour dire des choses comme ça. Mais c'est juste une définition qui renvoie à nouveau à d'autres hommes, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc cette définition est tout à fait étonnante. Verset 6, verset 15, elle définit Dieu par son rapport aux hommes, à certains hommes en tous les cas. Vous voyez, hein, Dieu qui se définit par son rapport aux hommes, à certains hommes. Mais j'ai sauté pour le moment versets 12, 13 et 14. Donc bien sûr, il faut y revenir. Puisque si ce texte, dans une certaine mesure, enfin plus que dans une certaine mesure, donne la définition et tente de donner la définition de Dieu, il va y avoir là, dans les trois versets ici, aussi une confrontation avec les idées habituelles, à nouveau, qu'on a de Dieu. Et notamment la confrontation avec le verbe « être ». Alors, est-ce que quelqu'un veut nous lire, puis on comprendra cette confrontation dans une minute, les versets 11 à 14. Un lecteur, oui. Une lectrice, bien sûr, aussi. Non ? Personne ?
J'ai bien me lancé.
Allez, Yann, merci.
11 à 14, hein, vous dites.
Oui, c'est ça, 11 à 14.
Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? Dieu lui répondit, je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse répondit à Dieu, j'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander, quel est son nom ? Que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je serai. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. »
Merci. Merci. Vous voyez, trois versets qui sont, enfin, vous voyez la construction en pyramide, hein, que je dessine. Si j'avais un tableau, là, je ferais la pyramide, mais je ne l'ai pas. Si on était en salle, on ferait ça. Cette construction en pyramide, où il y a le réel des hommes, la misère, la compréhension englobante de Dieu comme un Dieu qui se rapporte, qui se définit dans son rapport à une lignée, Abraham, Isaac, Jacob. Mais à l'intérieur de ça, il y a un débat. entre le prophète et Dieu, donc une parole entre eux. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon? Alors vous vous souvenez ce qu'on disait la semaine passée, le prophète c'est d'abord celui qui dit, ah non, pas moi, je peux pas, c'est pas possible, donc qui suis-je? Bon, réponse de Dieu, pas du tout, tu es un type brillant et tu vas être remarquable et tu vas gagner, pas du tout, hein, c'est je suis avec toi. Et ça continue au verset 13. Moïse insiste en quelque sorte, ils vont me dire qui tu es, quel est ton nom? Le nom, c'est vraiment l'identité. Hein. Alors, 14, voilà, le célèbre verset 14 de Exode 3, traduit ici en « Je suis qui je serai » et qui continue quand même en disant « Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis ». Vous voyez combien là, le verbe « être » est important. Je suis avec toi, je suis qui je serai. Celui qui envoie, c'est je suis. Mais vous voyez aussi, alors que la définition de Dieu comme être, c'est presque une banalité. Hein, si on pense à la Révolution française, l'être suprême, ou au philosophe des Lumières, ben voilà, Dieu, c'est l'être suprême. Donc c'est un bien commun de parler de Dieu comme être. Et justement, qui contrebalance, enfin qui s'oppose même à l'éphémère de l'existence que nous avons, nous. Mais là, la prise en compte de, enfin, le texte prend en compte l'idée, tient compte du fait que Dieu, c'est l'être, mais subvertit cette idée de manière très profonde, d'abord par ce que j'ai dit tout à l'heure, en tenant compte de la misère humaine, du malheur humain, de la souffrance humaine, en se référant à une lignée d'hommes, Abraham, Isaac, Jacob, mais ici également, en déplaçant, en faisant jouer le mot être, en faisant quoi finalement? En introduisant le futur. Donc, en introduisant du temps. Je suis qui je serai. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Soyons, enfin, commençons d'abord par nous dire qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, qu'on ne comprend pas. Mais ce qu'il y a une chose de sûre, c'est que si on regarde la forme même, la lettre même, il y a quelque chose qui déplace le regard de l'être vers autre chose, vers un advenir de l'être, vers un être qui va se révéler, qui n'est pas posé là définitivement, acquis, une bonne fois pour toutes, non, non, qui est déjà en dynamique, qui est en mouvement, je suis qui je serai. Je suis avec toi, en même temps je suis avec toi, donc je ne suis pas ailleurs, mais je suis avec toi, allant rencontrer Pharaon, allant rencontrer les fils d'Israël, c'est-à-dire en plein mouvement, quoi, et en sortant d'Égypte. Tu es avec toi dans la nuée, hein, dans la traversée du désert. Et pourtant, finalement, c'est « je suis ». Et donc, l'être n'est pas absent. C'est pas « Dieu n'est pas l'être hein, », bien entendu. Dieu sans l'être, c'est pas sûr que ce soit tout à fait juste. mais, j'ai dit, c'est subverti dans la mesure où il y a du futur qui est comme au cœur de la définition même de l'être. Alors, bien entendu, le « je suis qui je serai » qui est traduit ici, dans cette proposition-là, au verset 14, je vous ai mis une petite note. Ah, elle apparaît pas bien, mais enfin, bref. C'est qu'en fait, cette brève formule est d'abord très difficile à traduire, ça c'est complètement certain, mais ce qui est également très intéressant, c'est de voir combien la variation des traductions, en français, mais ça pourrait être dans n'importe quelle autre langue, combien la variation des traductions indique l'idée préconçue qu'on a derrière et qu'on veut dire ou ne pas dire. Alors, j'en ai indiqué quelques-unes. Je suis désolée, ça apparaît pas ici. Donc c'est un problème. Enfin, voilà. Vous l'avez sur votre papier, j'espère. J'ai indiqué quelques formules, quelques traductions différentes. Dans le français courant, « je suis qui je suis », bon, on est au présent, mais on est aussi au présent en exprimant quelque chose qui est ben, « je suis qui je suis », ça ne te regarde pas. C'est presque ça, le sous-entendu. Donc, dans la TOB, « je suis qui je serai », c'est la traduction TOB qu'on a là, ou encore, dans la Bible second, ou encore dans la Bible Souraki, c'est carrément double futur. C'est « je serai qui je serai ». Ce n'est pas un seul futur, c'est deux futurs. « Je serai qui je serai ». Mais il y a aussi ceux qui sont les traducteurs, hein, bien sûr, qui sont troublés par ce futur à mettre ici et qui rapatrient tout au présent. Alors, ça devient « je suis celui qui est ». Mais là, on est dans la tautologie de l'être, hein. Je suis celui qui est, grosso modo, il ne se passe plus rien. Il y a une sorte d'installation. Et puis, ça, c'est l'ABJ qui traduit comme ça, enfin, une version de l'ABJ, en tous les cas, la Bible de Jérusalem. Et puis, une plus ancienne version, la Bible de Crampon, qui est une version importante, un peu ancienne, mais importante, qui dit carrément « Je suis celui qui suis ». Donc, il n'y a même plus de « je », vous voyez, hein ? Il y a un « je » dans « je suis », mais il n'y a plus de « je » dans le deuxième. Donc là, on peut faire une petite remarque qu'on appelle de théologie fondamentale, si vous voulez, là. C'est de vous sensibiliser, hein, d'attirer votre attention sur l'importance et la difficulté, naturellement, des traductions. Mais ne soyons pas naïfs, ce n'est pas la traduction qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est déjà le texte en hébreu. Hein. Ce n'est pas parce qu'on serait en train de traduire qu'on aurait une difficulté. C'est de comprendre, je vous fais grâce de ce que c'est exactement du point de vue de l'hébreu, mais c'est de comprendre la subtilité, en fait, hein, de ce « je suis qui je serai ». Donc, je conclue sur Exode 3 et je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, donc je vous donne la parole dans une seconde. Ces quelques versets, hein, c'est une quinzaine là, ces quelques versets indiquent, peuvent être un peu emblématiques de Dieu se révèle comme celui qui intervient dans l'histoire des hommes pour sauver, pour délivrer, dit le verset 8, pour délivrer son peuple. Mais cette intervention, je le redis, n'est pas tonitruante, elle est au creux de l'histoire, au cœur de l'histoire, c'est-à-dire au cœur de la misère et de la souffrance. Elle est complètement liée à une lignée d'humains et elle fait entrer du futur, elle fait entrer de l'avenir, hein, dans la compréhension même qu'on peut avoir de Dieu par cette difficile expression, je traduite ici donc dans la Tobe, « Je suis qui je serai ». J'ai l'impression que l'un d'entre vous, mais là, il faut peut-être que j'arrête le partage pour mieux comprendre. À lever la main, c'est... Pardon, l'une, excusez-moi, c'est Nicole, Nicole Vautrin. Prenez le micro et prenez la parole, puisqu'on a fini le commentaire d'Exode 3. Non, Nicole, il y a un problème de micro, on ne vous entend pas. Je ne sais pas très bien parce que... Voilà, là, il est enlevé, là, il est remis. Ah, ça ne marche pas. Est-ce qu'il faudrait que vous montiez votre son ? Aïe, dommage. dommage, comment on peut faire ? Là, vous avez bien le micro qui est ouvert, d'après moi, mais on ne vous entend pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que vous avez... voilà. Oui, merci Emmanuel, c'est ça. Est-ce que vous pourriez écrire votre question, ou votre commentaire d'ailleurs, dans la conversation ? C'est possible, puisqu'on a une difficulté pour vous entendre. Vous voyez la proposition ? Vous rentrez dans la conversation, conversez, et vous rédigez. Merci beaucoup, et merci Emmanuel de la suggestion. Y a-t-il un commentaire sur, donc, première étape, hein, vous voyez, Exode 3, qui est donc très construit, hein, un texte très, très structuré, et qui donne vraiment une compréhension structurée et complexe, pas compliquée, hein, complexe, de Dieu dans l'histoire. Alors, deux personnes ont levé la main, merci beaucoup, je veux voir qui d'abord. Nicole, toujours, et Jean-François. Jean-François, vous avez une question, ou un commentaire, pardon, allez-y.
Oui, vous m'entendez là ?
Oui, ça va, on vous entend.
Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette idée que j'ai apprise, non pas au catéchisme, mais enfin, disons, dans mes études préalables de théologie, si j'ose dire, le peuple hébreu était le premier à avoir fait cette percée conceptuelle de l'histoire linéaire par rapport aux théories conceptuelles de l'époque qui étaient plutôt en faveur de l'histoire circulaire. Alors, cyclique. Je m'explique en une seconde. Cyclique, voilà. L'histoire cyclique, c'est la succession des âges, l'âge de fer, l'âge d'or, l'âge de bronze, etc. Et pour la première fois, le peuple hébreu a inventé cette idée d'histoire linéaire qu'on voit dans la Bible. Et effectivement, c'est absolument lumineux après ce qu'on vient de dire depuis quelques minutes. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Est-ce qu'elle est vraiment générale et vraiment admise ? Ou est-ce que c'est simplement quelque chose que j'ai entendu un peu Parce que c'est très repris par saint Augustin après, mais en fait, l'origine est dans la Bible.
Bien sûr. Tous ceux qui vont... Merci de la question. Hein, tous ceux qui vont réfléchir à la... À la, ce qu'on va appeler la théologie de l'histoire, mais après, bien après, hein, sont bien dans cette mise en vis-à-vis d'une histoire alors cyclique, au sens où, même si les âges se suivent, l'exemple que vous prenez, on est quand même dans un cycle qui revient, donc dans une sorte de, pas une sorte, une répétition. Et l'exemple type, c'est les saisons, hein, les saisons reviennent. Alors que, et donc on revient parce qu'au printemps, au début de l'hiver, au milieu de l'automne, on sait bien ce qui va se passer. On sait bien que les arbres vont faire ci, vont faire ça, que c'est ci qui va pousser. On sait bien ce qui va se passer. Alors que dans l'histoire que vous qualifiez de linéaire, et pourquoi pas, telle que l'Ancien Testament la propose, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'il y a histoire. Autrement, il y a répétition. Donc, le mot-clé hein, qui fait comprendre ce que c'est que l'histoire dans ce sens-là, c'est qu'il y a de l'avenir, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer, c'est qu'il y a de la nouveauté. Mais voyez, là, il y a une question philosophique très intéressante, c'est comment peut-il y avoir de la nouveauté? Est-ce que quand on estime qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est au fond simplement parce qu'on ne l'avait pas prévu, qu'on n'avait pas compris, qu'on n'avait pas vu le truc? Ou bien est-ce que la nouveauté, c'est vraiment une vraie nouveauté, si je puis dire, c'est-à-dire quelque chose d'imprévisible? Imprévisible pour nous. Et l'idée de l'histoire linéaire, l'histoire biblique, c'est que Dieu fait du neuf. Hein, ça, c'est le prophète Isaïe le dit bien, je crois. Donc, de fait, alors, il ne faut pas être naïf, hein, et c'est l'exemple des saisons, à cet égard, est tout à fait intéressant. C'est que nous sommes à la fois dans l'histoire cyclique, c'est-à-dire l'automne, l'hiver, le printemps, ok, nous sommes dans l'histoire cyclique, dans une approche cyclique de l'histoire, pardon, et nous sommes en même temps, voilà, si on est croyant, si on estime que cette manière de voir les choses a du sens, nous sommes en même temps dans une histoire qui avance. Alors qui avance avec les aléas de l'histoire qui avance, c'est-à-dire avec les échecs, et les graves échecs, le cas échéant. Mais vous voyez, cet écart entre cyclique et événementiel, au fond, hein, pour employer encore un autre mot. Donc de fait, oui, c'est probablement, alors après, on peut être plus ou moins historien, mais c'est probablement une des grandes inventions, hein, de la pensée juive, de la pensée hébraïque, c'est de penser le temps et l'histoire de cette manière-là. C'est-à-dire, en fait, de donner du poids à l'histoire. Parce qu'après tout, bon nombre de cultures estiment que l'histoire, c'est du phénomène aléatoire et sans importance. C'est tout l'inverse ici. Hein. Ça se joue au cœur de l'histoire. Voilà. Voilà, oui, donc merci, merci de la suggestion. Alors, Nicole, merci beaucoup, vous avez écrit, mais vous avez écrit comme moi, mais c'est pas grave, je vais lire votre commentaire, sauf si depuis vous avez récupéré votre micro. Non, attendez, on finit avec Nicole Vautrin, si vous voulez, ou on écoute Nicole. Donc vous dites que dans la Bible de Crampon, c'est une faute de frappe. Est-ce que c'est une faute de frappe ou est-ce que c'est le suit avec un T ou le suit avec un S? C'est ça votre suggestion. Alors là, franchement, je ne sais pas vous répondre. Il faut aller vérifier. Dans la Bible de Crampon que j'ai vérifiée, là, dans ma bibliothèque, il y a un T. Ça, je suis sûre. Mais il est possible aussi que ce soit une faute de l'éditeur, enfin, dans l'édition. Donc, c'est une bonne remarque. Il faut le vérifier. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Et vous n'avez pas récupéré votre micro, visiblement. Mais on vous a entendu indirectement. Merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur cet exode, oui. 3 ? Oui, Jean-Marie ?
Oui. Oui, donc si je vous suis bien, si j'ai bien compris, lorsqu'il se présente, Dieu se présente au présent et au futur. Ma question est simple, hein, elle brûle sans doute aussi d'autres lèvres que les miennes, et l'éternité.
Eh bien justement, la vraie question, c'est que Dieu soit dans l'histoire. Ce n'est pas qu'il soit dans l'éternité, c'est une tautologie de dire que Dieu est dans l'éternité. Ce n'est pas faux, hein, attention, ce n'est pas faux. Je réagis vite là. Mais quelque part, c'est une tautologie. Oui, bah, bien sûr que Dieu est dans l'éternité. Ah, ah, ah. Mais Dieu dans l'histoire, ah, ah, ah. Vous voyez, ce n'est pas du tout pareil. Donc, pour qu'il y ait révélation, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Quoi.
Hein, mais est-ce que cette évidence était dans la tête de Moïse?
Non! Non, 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 non. Et puis non, non, peu importe la question, si je puis me permettre, ou du moins, pardon, peu importe la réponse à la question. On n'est pas dans la... Enfin, dans la Bible, Nouveau et Ancien Testament, à nouveau, c'est une remarque méthodologique là, que je fais, mais qui est importante. Je pense qu'il ne faut jamais psychologiser la lecture qu'on fait d'une péricope, d'un morceau biblique. On a souvent envie de dire « Ah oui, mais alors qu'est-ce qu'il pensait ?» Bon, c'est normal, on a envie de dire ça et c'est normal. Et il faut le dire aussi, il faut s'interroger. Mais je crois réellement que la Bible n'est pas sur ce registre-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une fine psychologie des personnages. Attention, hein, ils sont bien réels en ce sens-là. Mais au fond, on a comme des prototypes, hein. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a un type qui est un berger, quoi. Hein. Bon, c'est quand même pas le roi, c'est un berger. Il a épousé une païenne, ce qui n'est pas terrible quand même. Hein. Enfin, c'est pas terrible au sens, c'est pas terrible dans l'avenir qu'il peut avoir. Et il édictera après une loi comme quoi il ne faut pas épouser de païenne. Hein. Ce qui est quand même très intéressant. Mais il fait un détour. Et ce détour est tel qu'il peut voir Dieu, ou du moins qu'il peut voir une manifestation vraiment divine, et que dans cette manifestation divine, il entend quelque chose. C'est plus tout à fait un berger banal. Hein. Mm-hmm. Et ce qu'il va entendre, c'est une mission. Va, libère, va parler au peuple, fais tel truc, fais ci, fais ça. C'est une mission. Donc c'est une action qui peut échouer, d'ailleurs, hein, bien sûr. C'est une mission qu'il ne veut pas, dont il ne veut pas. Elle est bien trop difficile, évidemment. Donc, il est lucide aussi, hein, il sait qu'elle est difficile. Mais au-delà de ça, je pense qu'on ne doit pas trop se poser la question de savoir si c'est vraiment un monsieur Moïse qui a vécu ça, comme ça. Non. Enfin, vous voyez, non. Ce n'est pas du tout relativisé hein, de dire non. Mais on est plus dans un prototype que dans un personnage dont on pourrait dire qu'il a existé à telle époque, à tel moment, dans tel lieu. Mais le prototype, l'archétype presque, on pourrait dire, pour ce qui est de Moïse, en fait, donne bien plus à penser que de savoir s'il a fait ci, ça ou ça, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête ? Franchement, d'abord, on ne le sait pas, c'est clair. Donc, et en même temps, ce n'est pas ça notre question. Notre question, c'est ce que ça révèle et de Dieu et de l'être humain, présenté par Moïse, et ça révèle cette chose assez extraordinaire que c'est dans l'histoire de la misère que Dieu se révèle comme un Dieu présent dans l'histoire, qui à la fois est bien l'être dont on peut dire qu'il est Dieu, mais qui en fait est présent dans le temps. Est présent dans le futur, est présent dans la dynamique du temps et dans la dynamique de l'histoire. Et ça, je le redis, excusez-moi, j'ai déjà dit cette phrase-là il y a quelques minutes, ça c'est une révélation. Ça veut dire que si on ne nous le dit pas, au fond, si la Bible, si le texte ne nous le dit pas, et si peut-être un commentaire ne nous aide pas à comprendre que c'est ça qui se passe dans le texte, ça entre autres, qui se passe dans le texte, alors on ne le verra pas et on ne le saura pas. Mais ça, c'est une nouveauté. Et c'était le commentaire qu'on pouvait faire tout à l'heure sur le temps événementiel, hein, le temps où il se passe quelque chose. Je fais une petite parenthèse. C'est difficile aujourd'hui. J'oublie quand même pour quelques minutes, si vous permettez, la conversation de tout à l'heure et l'importance de ce dont on parlait. Mais c'est culturellement aujourd'hui difficile de penser qu'il se passe quelque chose. Si on pense plus les jeunes générations que nous, enfin un certain nombre d'entre nous, comment aider les plus jeunes, comment nous-mêmes le voir d'ailleurs, à penser, mais c'est plus que penser, c'est à reconnaître qu'il se passe quelque chose. Que ce qui se passe peut être du neuf. N'est pas toujours du neuf, hein, ça bien sûr, mais peut être du neuf. Je pense que dans notre culture, alors qu'il y a eu une telle volonté de penser qu'on allait faire du neuf dans les décennies passées, dans notre culture, c'est une chose qui est devenue peu évidente. Donc, cette idée biblique, là, qu'on trouve ici, vous voyez, ce n'est pas juste une idée biblique dans un vieux texte, hein, c'est une idée qui a une actualité. Hein, c'est ça qui est aussi intéressant. J'avance un petit peu parce que vraiment, le temps est cyclos, il est kairos, mais il est aussi chronos. Et là, on expérimente douloureusement le temps chronos. J'avance un petit peu et, pas suivant, si je puis dire, c'est au fond, j'ai insisté plusieurs fois sur le fait que Moïse, enfin le texte nous dit, Moïse fait un détour. Mais comment on fait un détour? Qu'est-ce qui fait que dans la vie de celui qui va devenir un prophète, qui va devenir un croyant d'abord, hein, comment se fait-il qu'on puisse faire un détour? Alors, là encore, c'est une question extrêmement pratique, hein, extrêmement concrète que je pose, ou que pose le texte hein, plutôt. Alors là, il y a évidemment une autre grande figure qui peut peut-être aider, là encore c'est un texte hyper connu, hein, je crois, mais qui peut peut-être aider à comprendre ce que c'est que faire un détour. Parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, c'est parce qu'il est un prophète, il est un grand prophète, il a eu une révélation, il a bien de la chance, ben voilà, il fait un détour, quoi. Mais c'est pas pour moi, quoi, grosso modo, c'est pas pour moi. Et ça lui est un peu tombé dessus, comme ça. Voilà. Il y a un événement dans la vie d'Abraham, et là, je suis dans le livre de la Genèse, plutôt, il y a un événement fondateur dans la vie d'Abraham. Bon, je crois qu'on le sait, on le connaît. C'est ce qu'on trouve au début, non pas au début de la Genèse, hein, mais au début du cycle d'Abraham, au chapitre 12. Et j'ai retenu très peu de choses, comme vous le voyez, trois versets. Donc, il faudrait le mettre dans son contexte. Hein. Quand vous allez travailler avec Roselyne, je crois bientôt, elle vous aidera sûrement à mieux réfléchir les choses en n'oubliant pas qu'un texte est toujours dans un contexte. Donc, quand on extrait trois versets, c'est un extrait. Hein, donc, il faut être prudent par rapport à l'extrait. Mais il n'empêche. Quelqu'un veut lire ces trois versets? S'il vous plaît.
Moi, je veux bien lire.
Ah, merci, Laurence. Parfait. Allez-y.
Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai, en toi seront bénies toutes les familles de la terre.
Merci beaucoup, merci de la lecture. Mais je réalise que je n'ai pas partagé le texte, peut-être ça peut, mais je vois que vous avez les textes sous les yeux. C'est bien. Alors, je laisse. Voilà, bah, il est là. Est-ce que vous le voyez maintenant? Peut-être pas. Si? Non. Ça ne marche pas. Ouais. Qu'est-ce qui ne marche pas? Voilà, excusez-moi. Ça y est. Voilà, il est là. Donc, il est à l'écran, ici. Bien. Trois petits versets. C'est surligné en vert. Vous le voyez déjà. Tout c'est futur. Vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas de futur. Il y a quelque chose qui s'appelle, ou du moins il n'y a pas trois temps, passé, présent, futur, il y a quelque chose qui s'appelle l'accompli, donc des verbes à l'accompli, et des verbes à l'inaccompli. Donc là, les verbes en vert, ils sont à l'inaccompli. Donc vous voyez, quand je vous disais, il y a de la nouveauté, il y a des choses à faire, il y a des choses à venir, et bien voilà, il y a des choses à venir. Qu'est-ce qui sera à venir? Regardez les sujets de ces verbes à l'inaccompli, au futur pour nous. Je te montrerai un pays. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai, il en manque un, tiens, grand ton nom, tu deviendras, je bénirai ce que tu béniras, je maudirai, je réprouverai ce que tu réprouveras, en toi seront. Donc, tous ces futurs, le sujet, je, c'est Dieu. Donc, celui qui parle au futur, si je puis dire, dans ces trois versets, c'est Dieu. Donc, Dieu est en train de promettre, hein, c'est la promesse à Abraham, bien sûr, de promettre au futur quelque chose qu'il fera. Donc, il n'a pas encore fait. Et auquel il s'agit de croire, hein, pour Abraham. Donc, on est bien dans ce futur. Hein, je serai qui je serai. ou je suis qui je serai, on est bien toujours dans ce futur qui qualifie Dieu en quelque sorte, qui qualifie ce que Dieu va faire, qui qualifie ce que Dieu va révéler, ce que Dieu va dévoiler. Il va dévoiler une bénédiction, un pays où coule le lait et le miel, des bénédictions, mais aussi des malédictions. Je réprouverai celui que tu maudiras. Mais ce qui nous intéresse encore plus, là, une fois qu'on a repéré ces futurs, c'est le verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers. Là encore, c'est un verset difficile à traduire. Un certain nombre de traductions récentes disent le va vers, c'est pour ça que je me suis arrêtée là, c'est pas tant le va vers le pays, c'est-à-dire telle terre, tel endroit, mais c'est carrément le va vers toi. Hein, c'est André Wénin qui dit ça, va vers toi. Découvre-toi toi-même. Donc, quitter son pays. Entendez bien la suite, hein. Ta parenté, la maison de ton père. C'est-à-dire les endroits où on est assis, les endroits où on sait bien qui on est, où l'identification de soi-même est évidente. On a un père, on a une parenté, voilà, hein, tout un réseau relationnel bien connu au fond. Quitte ça. Quitte cette sécurité. Quitte cet établissement pour aller vers, alors vers quelque chose qui sera montré, quelque chose qui est devant toi, quelque chose qui sera bon, bénirait, etc. Hein, ça sera bon. Mais va vers. Et pour le moment, la chose qui est bonne, la terre du lait avec du lait et du miel, Abraham ne l'a pas. Hein. Il va quitter en passant par le désert lui aussi. Donc, cette idée que ce qui est devant va être bon n'est pas du tout expérimenté à l'instant présent. Ce qui est expérimenté, c'est qu'il y a une parole de quitter, de partir, de sortir, qui va être une parole qui va permettre de s'identifier soi-même, de savoir qui on est, au lieu d'être identifié seulement par un pays, une parenté, un père. Seulement, hein, parce qu'on est aussi identifié par un pays, une parenté, un père, naturellement. Donc on a quelque chose ici dans ce bref verset, quitte ton pays, bien connu si je puis dire, qui est que c'est dans la dynamique de partir. Alors j'ai dit du départ, de la sortie, de la migration, vous voyez le titre du point 2, c'est dans la dynamique du partir, du quitter ce qu'on connaît bien, du quitter l'établissement, que on entend que Dieu parle, car c'est Dieu qui, le Seigneur dit à Abraham, et on entend aussi qui, non pas qui on est, mais qui on sera. Là encore un futur. Donc vous voyez que c'est un autre élément pour simplement dire à nouveau la dynamique de l'histoire, la dynamique du faire. Il faut quitter, c'est douloureux, hein, faut pas rêver, quitter son pays, sa parenté, la maison de son père, c'est pas du tout une facilité, c'est douloureux, c'est orienté par une promesse d'avenir non encore expérimentée, donc incertaine évidemment, comme toutes les promesses. Donc c'est tout l'inverse d'être assis sur l'origine. C'est au contraire d'être attiré, aimanté par l'avenir, et l'avenir de soi et l'avenir de la compréhension qu'on peut avoir de Dieu. Autrement dit, aussi bien Dieu que Abraham, si en l'occurrence, l'être humain, se révèle, j'emploie le mot volontairement, hein, se révèle dans l'avenir. Ne se révèle pas dans une recherche d'une origine, donc du passé, mais se révèle dans ce qui va arriver, ou se révéleront même peut-être pleinement dans ce qui va arriver. Mais voyez que là, le détour, pour rester dans le mot de Moïse, le détour, il ne se fait que si, effectivement, Abraham quitte. Ça veut dire qu'il faut qu'il y aille, quoi. Il faut qu'il bouge, qu'il quitte la sécurité, mais qui est aussi probablement un enfermement. Il quitte la sécurité, et c'est là où une parole est entendue. En même temps qu'il quitte, il entend la parole, et en même temps, ça permet de s'orienter vers l'avenir, et ça permet de comprendre quelque chose, et de qui est Dieu, et de qui, je passe à Abraham, à je, et de qui je suis. Mais ce détour ne se fera si des tours il y a ici aussi, ne se fera que s'il y a l'effort, le courage, l'audace de quitter. Il n'y aura pas de détour s'il n'y a pas déjà le mouvement de quitter. Donc, vous voyez, si ma question, il y a quelques minutes, c'était de dire comment faire ce détour, ben, il n'y a qu'une solution, c'est faire le détour en le faisant, en quittant, en détournant, on peut aussi dire. Je ne sais pas si on peut prendre le temps d'une question, peut-être gardez-les pour le moment un petit peu, si un petit peu, c'est-à-dire peut-être pour la semaine prochaine, parce que je voudrais au moins avancer sur ce point 1 jusqu'au bout, si vous voulez bien. Et donc, en fait, il faut que je continue de partager l'écran. Donc, je suis à la page suivante, à la page 2, si vous voulez bien, où au fond, j'essaye, à partir de ce substrat tellement important et bibliquement tellement important, j'essaye de me dire, mais alors, quels effets ça aura tout ça? Qu'est-ce que ça implique? Alors, ça implique beaucoup de choses. Donc, j'ai essayé de résumer un petit peu ici. Je pense que ça implique au moins, dans la compréhension même qu'on a de l'être humain, de Dieu et de l'être humain, bien sûr, ça implique au moins une autre idée du temps. Vous avez à l'écran ce que je vous montre là à l'instant ou vous ne l'avez pas? Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Non, vous ne l'avez pas. Donc, j'ai vraiment un problème de partage aujourd'hui. Je suis maladroite. Excusez-moi, je vais recommencer. Voilà. Tac. Oui, parce que j'avais dû l'enlever. Est-ce que là, vous l'avez? Oui, c'est bon? Ok, merci. Donc, je suis dans cet état 3 hein, de la réflexion. Un Dieu dans l'histoire qui prend en charge, hein, prend en compte l'histoire des hommes et l'histoire de la détresse, mais un Dieu qui aussi, c'est toujours Dieu premier, mais à condition aussi que l'être humain fasse quelque chose. Et le quelque chose, en l'occurrence, c'est de quitter, voilà, de bouger. Si on entend ça à l'école d'Abraham. Donc, dans notre compréhension, on a déjà dit beaucoup de choses, hein, puisque même parler de la théologie de l'histoire, mais dans notre compréhension du réel, globalement, comprendre Dieu ainsi, qu'est-ce que ça implique? Ça implique, donc, je disais, au moins 4 changements, mais je crois que c'est 5. Une autre idée du temps, une autre idée de l'idée du changement, une autre idée de la vérité, et une nouvelle forme de vie. Donc c'est 4. 4 points, vous les avez sur votre papier, vous les avez à l'écran. Une autre idée du temps, effectivement, quand on introduit de manière tellement structurelle le futur, d'un Dieu dans le temps, et d'un Dieu dans le temps orienté vers le futur, je l'ai dit à l'instant, hein, ce n'est plus l'origine qui est déterminante et qui bloquerait peut-être. Ce n'est plus l'origine qui est déterminante, c'est bien, donc le en arrière, hein, c'est bien plus le en avant. Ce qui va être déterminant, c'est l'avenir, le devenir. Donc, penser un Dieu dans le temps, penser expérimenter le cas échéant, un Dieu dans le temps, c'est un autre rapport au temps. C'est en fait voir le temps non pas simplement comme passé, présent, futur, et l'origine étant l'essentiel par le passé, dans le passé, mais un temps qui est aimanté, hein, et tiré par le futur. Et ce qui devient le point fort, le point lourd, c'est le futur, c'est l'avenir. Donc, une autre idée du temps. Vous voyez, on n'est pas juste dans la nécessité de l'origine et du retour au passé. Également, une autre idée du changement. Parce que nous avons souvent, et c'est aussi une expérience, hein, donc ce n'est pas une stupidité de dire ça, nous avons souvent l'idée du changement comme une détérioration, comme une altération. C'est souvent ça, notre idée du changement. L'altération, c'est-à-dire le fait que ce qui va changer va être défectueux, enfin va créer une défectuosité, quelque chose qui s'altère, voilà. Hein. Donc il y a une régression, hein, pas une régression dans le temps, mais un défectus, un délabrement, pourrait-on dire. Alors oui, il y a ça, bien sûr, il n'y a qu'à voir la manière dont nous vivons l'âge, n'est-ce pas? C'est bien ça aussi, évidemment, dans le réel de la vie, évidemment. Mais il n'empêche que là, le changement, ce n'est pas ça. Le changement ici, c'est exactement le mot quitte. C'est mouvement. Et c'est seulement mouvement. Vous voyez ? Le mouvement dans le temps, de venir dans le temps, qui consiste à devenir. Et c'est bien le mouvement que Dieu lui-même fait. Donc, on a une idée du changement qui se diversifie. On n'a plus seulement l'idée d'un changement sous mode de détérioration, d'altération, ce qui est pourtant vrai, bien sûr, mais on a l'idée d'un changement où, je vous passe la citation que vous lirez peut-être, où en fait, c'est la fin de la citation que je lis ici, on ne fait que, ce changement ne fait que passer de ne pas être encore là à être là. Vous voyez que c'est encore le verbe être. Je poursuis, parce que je veux achever ce point, si vous me permettez, quand même, d'ici 22 heures. Troisième implication, c'est une autre idée de la vérité. L'idée courante que nous avons de la vérité, l'idée aussi souvent philosophique d'ailleurs, c'est que c'est quelque chose où il faut creuser, où il faut enlever les plures de l'oignon, vous savez, où on va trouver un noyau dur. Et quand on aura le noyau dur, on a enlevé les plures, on a le noyau dur, on tiendra au noyau dur et puis ça, ce sera sûr, ce sera une vérité sûre. C'est pas comme ça. C'est pas ça que raconte le texte biblique, la révélation biblique. La révélation biblique raconte autre chose. Je lis le petit alinéa là sur l'autre idée de la vérité. Donc je le lis simplement. Lorsqu'on se décide à propos de la présence de Dieu dans le temps, c'est-à-dire lorsqu'on fait le détour, comme disait Moïse, ou lorsqu'on entend que pour comprendre qui est Dieu et qui je suis moi-même, il faut bouger, il faut quitter, il faut se mettre en mouvement. Donc lorsqu'on se décide à propos de la présence de Dieu dans le temps, la manière avec laquelle on se comprend change. Et la vérité ne peut plus être un savoir d'objet, justement, appartenant au passé. Un savoir d'origine qui serait, c'est la plure de l'oignon, hein, qui serait à décortiquer pour trouver le noyau. Ni non plus être confondu avec la situation dans laquelle on se trouve. Alors, de fait, mais c'est presque une tautologie par rapport à ce qui a été dit, la vérité advient dans le temps. L'expérience de Dieu présent dans le temps est déterminante pour être renouvelé soi-même, pour faire de chacun un homme nouveau, vous entendez cette expression, une création nouvelle. Donc il y a un rapport qui est circulaire, mais ça peu importe, entre la présence de Dieu et la présence à soi. Et cela signifie que l'on se reçoit, que l'on reçoit son être présent, que l'on se reçoit quand Dieu est reconnu comme présent. Abraham découvre qui il est quand il reconnaît Dieu présent et quand il le reconnaît dans la dynamique du changement, de ce qui advient dans le temps. Formule en quelque sorte, le rapport à la vérité, la question de la vérité n'est pas résolue par un savoir objectif. Le rapport avec la vérité fait apparaître que la vérité est aussi le chemin de la vérité. Vous ne pouvez pas ne pas penser à la définition de Jésus, telle qu'on la trouve dans l'évangile de Jean, si je ne me trompe pas. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », dit Jésus. Jean le fait dire à Jésus. Chemin et vérité se rencontrent, c'est le cas de le dire. Et puis une nouvelle forme de vie. Il y a non seulement une nouvelle forme, une autre idée du temps, une autre idée du changement, qui ne soit pas détérioration, une autre idée de la vérité qui est chemin, mais il y a évidemment, enfin, si on peut dire, ben ça fait qu'on vit autrement, qu'on vit pas pareil, quoi, si je puis dire. L'homme naît à nouveau. Ah, voilà la nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Grand thème biblique, n'est-ce pas, hein ? L'homme naît à nouveau. Il naît d'ailleurs tellement à nouveau que bien souvent, il va changer de nom. Abraham devient Abraham, n'est-ce pas ? Donc, il change de nom. Ou son nom est changé. C'est Dieu qui change de nom, qui lui fait changer de nom. L'homme naît à nouveau, il commence une vie nouvelle. Mais dans l'instant, évidemment, la vérité qui advient dans le temps est entrevue, jamais ne devient possédée, hein, dans la réinstallation, dans le réétablissement. Ce qui consiste à vivre, le devenir, va consister à se tenir ouvert à la vérité, qui toujours vient à nouveau, précède et rend possible la réponse de l'homme. Vous relirez ce texte que je viens de lire un peu rapidement, mais ce sur quoi j'arrête de partager à nouveau, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que comprendre et expérimenter, évidemment, ça marche ensemble, hein. Un Dieu dans le temps, c'était mon expression, hein. Alors l'expression Dieu dans le temps, c'est en fait une expression, vous l'avez peut-être vu dans les références de bas de page que je donne, d'un philosophe du 19e siècle, danois, qui s'appelle Kierkegaard. Mais c'est vrai, donc c'est intéressant à savoir, mais ce n'est pas essentiel à mon propos. Mais je m'inspire évidemment de lui. Mais comprendre un Dieu dans le temps, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec Exode 3 et Genèse 12, rapidement bien sûr, comprendre que Dieu est dans le temps, c'est comprendre le monde autrement. Parce que c'est comprendre l'idée du temps, non pas en arrière, mais en avant. C'est comprendre l'idée du changement, non pas sous le mode de l'altération, mais sous le mode du autrement. C'est comprendre la vérité, non pas sous le mode de l'objet possédé, mais sous le mode du chemin. Faire la vérité, comme on dit. Et puis c'est évidemment vivre à nouveau, une naissance nouvelle. Vous vous souvenez dans l'évangile de Jean, de Nicodème, il faut naître à nouveau, il faut naître d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, vous savez, Nicodème, il commence par dire « Ah non, 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 je ne peux pas naître à nouveau, je ne peux pas retourner dans le ventre de ma mère. » Donc, non, ce n'est pas possible, hein, c'est une idée absurde. Alors, dans un premier temps, c'est une idée absurde, évidemment, mais ce n'est pas une idée absurde. C'est une idée, au contraire, qui est la compréhension d'un Dieu qui vient dans le temps, c'est la compréhension que la nouveauté est possible et qu'on peut naître à nouveau, mais naître nouveau, pas seulement naître à nouveau comme renaître, mais naître nouveau, naître, autre. Donc, Dieu dans le temps, vous avez entendu aussi que j'ai fait un certain nombre d'allusions au Nouveau Testament, donc cette idée de Dieu dans le temps, ce n'est pas une idée vétérotestamentaire et qui s'arrêterait à la clôture de l'Ancien Testament, loin de là, c'est une idée toujours présente, et c'est une idée qui non seulement bouleverse l'idée de Dieu, c'est une révélation qui bouleverse l'idée qu'on peut avoir de Dieu, parce que l'idée courante de Dieu, c'est qu'il n'est pas dans le temps. Là, il est dans le temps. Et il est dans le temps, c'est-à-dire qu'il est dans l'histoire des hommes et dans la souffrance dans les souffrances de l'histoire des hommes, et que ça change la vie des hommes. Par leur compréhension du temps, par leur compréhension du changement, par leur compréhension de la vérité, et par leur compréhension de la nouvelle naissance. Mais cela ne va pas, Je redis ce que je viens de parcourir, hein. Cela ne va pas sans une décision de la part de l'être humain, la décision étant de bouger, de quitter, de sortir. Et ça, c'est une décision courageuse et incertaine. C'est dangereux de quitter, n'est-ce pas? On n'est pas très sûr de là où on va. Mais voilà, Dieu dans le temps. L'étape suivante, et qui ne sera pas pour aujourd'hui, mais je pense que les 40 minutes du début de la séance étaient utiles aussi, c'est que le pas supplémentaire, et alors là, pour le coup, tellement inattendu que la tradition juive, justement, ne va pas comprendre ce point-là, c'est que Dieu vient dans la chair. C'est tout simplement... Dieu dans la chair, c'est l'incarnation. Hein, c'est, si on veut le mot technique, en quelque sorte, de ce dont il est question ici, c'est le mot incarnation. Dieu s'incarne, incarné. Hein. Dieu dans la chair. C'est le cœur, à mon avis, me semble-t-il, ou un des cœurs peut-être, de la révélation néo-testamentaire. Dieu vient dans la chair. Ça me paraît difficile de traiter ça maintenant. Donc, on peut remettre ça tranquillement au début de la semaine prochaine. Je vous rappelle la dynamique, hein, dans laquelle j'étais. La semaine passée, acquérir l'idée d'un Dieu dans le temps, c'est pas tout à fait ça. Acquérir l'idée que la révélation, c'est Dieu qui agit, mais que ça ne va pas sans l'être humain, ni le moment, la situation présente, enfin le réel présent. Mais que Dieu agit, il faut donner des moyens, des médias pour cela, des lieux, dirait la tradition, et qu'une manière très, très biblique de qualifier ces lieux, c'est de parler de Dieu dans le temps et Dieu dans la chair. Et on fera donc la deuxième étape, hein, bien sûr. Mais il y aura encore une manière encore plus pratique, si je puis dire, encore plus concrète, en parlant aussi des lieux théologiques. Oui, vous voyez l'enchaînement, j'espère, du propos. On a 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes, je ne sais pas, 3, 4. Il peut y avoir 1 ou 2 questions, commentaires, librement. Ou on en a assez. On peut aussi dire qu'on en a assez et que c'est l'heure. Ah ben c'est l'heure. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Attendez, il faut que je vérifie quand même s'il n'y a pas de la conversation aussi. Pardon. Non. Bon, ça vous a estomaqué? Ça vous laisse sans voix ce que j'ai raconté? Complètement? Bon. Marie-Geneviève, vous voulez parler? Non. Peut-être pas. Aucun commentaire. Écoutez, c'est peut-être qu'il y a un peu de fatigue aussi. On a droit aussi à de la fatigue.
Béatrice,
pardon.
Béatrice. Mais j'ai un internet sautant.
Oui, oui, alors vous n'avez pas la caméra, c'est pas grave, on vous entend.
La dernière fois, en fait, le jeune homme riche devait aussi quitter.
Oui.
Voilà, ça m'a fait tilt.
Ah ben, c'est tilt, ça tilte bien, ouais, ouais, super. Mais tout à fait, bien sûr, bien sûr. Et comme, enfin, j'allais dire comme par hasard, mais il n'y a pas de par hasard, c'est ça qui ne fait pas. Et ça le rend tout triste. Ok, prenons le temps de relire peut-être tel ou tel papier, n'hésitez pas. Si vous avez le temps, prenez le temps de lire la suite, mais la suite, vous connaissez aussi, hein, les références bibliques qui peuvent être là. Mais peut-être, prenez le temps, parce que c'est peut-être ça qui est le point le plus, un peu dense, quoi. Hein, donc, prenez le temps de lire quatre implications, ça suffira, de la page 2. Et puis, il y aura sûrement des questions là-dessus. Donc, on pourra commencer peut-être comme ça et enchaîner lundi prochain. Bonne nuit, c'est ça? Non? Bonne nuit?
Merci.
Merci à tous. Merci de votre attention.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
C'était dense.
Merci.
Très dense.
Merci.
Merci. Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Au revoir. Merci.
Merci. Au revoir.
Merci.
Bonne nuit.
Ouais. Voilà. Bonne nuit.
Merci Jacques. Beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup.
Ah, mais c'est les sœurs de Metz, là. Bonsoir, oui. Les sœurs de Metz.
Oui.
C'est vous, Philomène?
Oui, c'est moi.
Ah, super. Salut, Philomène.
Merci, salut. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Merci.
OK. Il faut quitter. Xavier, Marie-Geneviève, voilà. Marie-Geneviève, allez-y, voilà. Merci.